Üşüyüm bu kadın.
Bonjour et bienvenue, c'est Comme un bruit qui court, le magazine de reportage du samedi avec des sons et du sens dedans.
En direct de Studio 511, une émission réalisée par Jérôme Chélius, assistée de Lucie Spindler, avec à la technique aujourd'hui Éric Morin et Michel Bézikian.
Au sommaire cette semaine, à Bériac, la cité de l'espérance sous haute tension, et à Argenteuil, lutte des femmes et corne de gazelle.
Il faut quand même que les gens sachent ce qui se passe.
Et je veux pas entendre dire la journée de la femme. C'est pas la journée de la femme, c'est la journée de lutte pour les droits des femmes, journée internationale.
Je veux faire voir aux gens, à la France entière, si c'est possible, où c'est qu'on vit.
Dites-moi, monsieur, c'est sérieux les bruits?
Pendant que les candidats et les candidates à la présidentielle se frappent le poitrail en fixant l'horizon de la France avec un grand F, Comme un bruit qui court vous emmène cette semaine faire un tour dans les marges de la société française. Loin des gilets de campagne délirantes, deux histoires bien réelles d'exclus qui se battent pour leurs droits collectifs, ce en quoi ils sont on ne peut plus français, mais tendance Astérix. C'est pas qu'ils soient très gaulois, loin de là, mais c'est parce que celles et ceux que nous allons rencontrer refusent de subir la loi du plus fort et ont décidé de pas se laisser faire, des vrais citoyens donc, des gitans et des femmes immigrées. Antoine Chao retourne à Argenteuil nous faire rencontrer Fouzia Amami et ses amis qui fêtaient doublement la journée internationale pour les droits des femmes cette semaine. Doublement parce qu'elles sont femmes et immigrées, féministes dans les quartiers populaires. Mais avant cela, Charlotte Perry nous emmène près de Carcassonne, où ce ne sont pas des grillons qu'on entend grésiller dans le paysage, mais les interférences d'une ligne à très haute tension. Bienvenue chez les gitans de la cité de l'espérance, cachés derrière les pylônes et devenus un cul-de-sac de la santé publique, où les habitants grillent à petit feu sans que la France, avec un grand F, ne s'en soucie beaucoup. Dans les marges de l'actualité, vous disais-je, mais des vrais Français survoltés contre le mépris jusqu'à 17h sur France Inter, comme un bruit qui court dans tous les sons et dans tous les sens.
Antoine Chao, Charlotte Perry,
qui vont-ils ? Comme un bruit qui court.
Hashtag comme un bruit.
La cité de l'espérance, c'est le meilleur.
Allez ! On n'entend que ça ici. Celui-là a le cancer, celui-là a le cancer, celui-là a le cancer. Tous. Attendez, toutes les maisons, on n'a que des problèmes comme ça avec les gosses et tout. Non, il faut arrêter maintenant.
Dans la maison que vous voyez là, il y a eu 3 leucémies. Plus un cancer de la thyroïde.
On ne nous a jamais prouvé que c'était l'électricité qui rendait les gens cancéreux.
Une maison, ça fait 4 cancers quand même. Ça fait un peu beaucoup, non ?
Il y a un problème à l'heure actuelle entre l'EDF et les habitants de la cité Espérance.
C'est vrai que c'est pas très agréable de vivre à côté d'une station comme ça électrique. Hein. C'est... Apparemment, ça amène des maladies, ça amène le cancer, enfin, qu'on dit, mais ça n'a jamais été prouvé quand même. Hein. Ça n'a jamais été prouvé.
Nous sommes à Bériac, un petit village de 900 habitants aux portes de Carcassonne. Là-bas, à la sortie du village, 350 gitans vivent à proximité immédiate d'un poste EDF, à l'ombre des pylônes électriques et des lignes à très haute tension. Bienvenue à la Cité de l'Espérance. Cancer, leucémie infantile, infertilité, dépression, pas une des 22 familles de la cité n'est épargnée par la maladie. Pour les habitants, pas de doute, ce sont les champs électromagnétiques qui sont responsables. Alors face à l'inertie des pouvoirs publics, les gitans ont décidé de saisir la justice et de porter plainte contre EDF, RTE et ERDF. Soutenu par le maire de Bériac, Michel Soulès, le seul maire gitan de France, ils se battent pour faire reconnaître la source de leurs maux et surtout pour être relogés. Un combat de David contre Goliath qui pourrait faire jurisprudence s'il était victorieux. Et c'est donc avec le maire, Michel Soulès, lui-même originaire de la cité de l'Espérance, que nous nous rendons au quartier gitan.
Carcassonne,
chères personnes.
La cité de l'espérance est la meilleure.
Il faut être fou de rester là. C'est vrai que c'est un truc qu'on y tient. Parce qu'on a grandi là, c'est nos parents qui nous ont construit ça. Mais pour être malade, pour pas être bien, ça sert à rien.
Bien.
Je m'en vais.
Dites-moi où on va là.
On va à la cité Espérance, qui est toujours sur le territoire de la commune de Berrières, mais qui est considérée comme un quartier spécifique, puisqu'on a 23 logements HLM, qui a été construit en 69, et une quinzaine de maisons de propriétaires qui se sont construites tout au long d'un poste EDF.
Donc vous, c'est là que vous avez grandi?
Oui, oui, là c'est vraiment là où je suis arrivé, donc en 68, dans cette cité, c'était l'Espérance, puisque moi, avant ça, avec ma famille, on vivait dans une décharge publique. J'ai grandi jusqu'à l'âge de 7 ans, dans une décharge publique. Puis il y a eu un grand incendie qui a fait qu'il y a des gens qui se sont mobilisés pour qu'on ne pouvait plus rester. Ils ont monté une quinzaine de blocos en 3 jours, des blocs en béton vite fait pour dire de mettre les gens dedans. Et puis donc, ceux qui ne pouvaient pas venir parce qu'il n'y avait pas assez de place, on les a logés en ville comme nous, puisqu'il fallait le temps que la cité Espérance se construise. Et dès que ça s'est construit, tout le monde est revenu habiter ensemble.
Et avant la décharge, là, ça s'appelait comment?
La Cavaillère, ça s'appelait. Alors aujourd'hui, la Cavaillère, c'est un quartier de luxe, avec des gens huppés, mais à l'époque, c'était une décharge publique. Voilà, c'était la décharge de Carcassonne.
Comment ça se fait que vous habitiez là?
Vous savez, mes parents sont d'origine gitane. Ils tournaient autour de Carcassonne en caravane. La Cavaillère, c'était à un moment donné, les gitans vivaient beaucoup de la ferraille, vivre dans le dépotoir, récupérer la ferraille, beaucoup vivaient de ça. Et donc, c'est vrai que nous, on vivait dans une maison, une baraque. Hein. Alors, j'ai une maison, je n'ai pas une maison du tout. Hein. C'était une baraque en tôle. On n'avait pas d'eau, pas d'électricité. Puis, on vivait là. Après, sincèrement, moi, j'avais mes parents, ils m'aimaient, je mangeais tous les jours. C'était l'essentiel.
Là, on arrive, là, il y a des pylônes électriques partout.
Ah, mais là, c'est impressionnant. Hein.
Oui. Chemin de la Croix de Berrières.
Voilà. Vous voyez, toutes les lignes, là, sur les maisons.
C'est impressionnant. Il y a un grand mur avec des barbelés et des pylônes.
Et normalement, ils ne devraient pas mettre de barbelés, car le barbelé, c'est conducteur. Hein, oui.
Voilà. Là, il y a des câbles partout. On prend une petite route, là.
Et on est, vous voyez, à 4 mètres hein, du poste.
Là, c'est la cité de l'Espérance.
Alors, on appelle ça la cité de l'Espérance. C'est mon grand-père qui a inventé ce nom. En 68, justement. Parce que venir d'une décharge, passer dans une maison, c'était une étape. Hein. C'était une reconnaissance. Donc, pour lui, il y avait de l'espoir.
Voilà. Et aujourd'hui?
L'espoir, c'est de pouvoir repartir aujourd'hui. Par rapport aux problèmes de santé, on peut faire tous les tours de la maison de la cité de l'Espérance. Tout le monde a eu des cas de cancer, de thyroïde, enfin... Tout le monde a perdu quelqu'un, je veux dire, il n'y a pas une maison où il n'y a jamais rien. Est-ce que c'est vraiment lié à ça ou pas? Personne n'a la preuve scientifique que c'est vraiment ça. Mais aujourd'hui, on attend une réponse du tribunal qui, je pense, devrait au moins nous signifier le principe de précaution. On retire les gens de là parce qu'on ne sait pas. Alors je me bats sur ce contexte santé et le contexte social. Parce que tant qu'on n'arrêtera pas de faire des quartiers avec des communautés, on aura toujours un problème, intégration.
On y va?
Allez. On va parler à Céline. Céline! Céline! Vous voyez là, Villa. Vous voyez toutes les lignes là?
Là, c'est sa maison.
Oui.
Et là, c'est.
Et des lignes de 125 000 volts.
Il y a les pylônes, mais les maisons, elles sont au milieu des pylônes.
Oui.
Et là, c'est le poste.
Oui, c'est le poste.
C'est quoi le poste alors? Du coup, il y a quoi là?
Tout ce qui génère l'électricité pour les villages, tout aux alentours, jusqu'à l'hôpital, il alimente. Voilà. Et en plus, il est prévu des extensions du poste, puisque Arthur nous l'a dit. Qui vont être obligés encore d'agrandir.
Donc c'est le réseau transport d'électricité, c'est la filiale d'EDF.
Oui, c'est la filiale d'EDF qui va encore s'agrandir.
Là, c'est immense déjà, ça s'étend sur
Oui, ça fait
au moins 500 mètres.
500 mètres, oui, facile. Facile, oui, c'est énorme. Mais...
C'est une forêt de pylônes, en fait.
Ah, oui, oui. Et quand on va faire un tour là-haut, vous allez entendre le bruit des pylônes, vous allez voir. C'est impressionnant.
On l'entend ?
Ah oui. Oui, oui, on va y marcher à côté, vous allez voir.
Bonjour. Moi, j'habite la maison qui est là-bas, juste derrière. La Rose ?
Oui.
Alors, vous, vous êtes vraiment en dessous des pylônes, en fait ?
Oui. Et de là, vous l'entendez, le bruit. Écoutez bien.
Le grésillement, là, c'est ça ?
Alors, ce grésillement, on l'entend quand il fait chaud, quand il pleut. Et ça s'intensifie avec l'orage ou les fortes chaleurs. Donc, à l'été, c'est insupportable.
Ça grésille tout le temps comme ça ?
À l'été, c'est pire que ça. Là, on n'est pas l'été. C'est les petites chaleurs, là. Et vous entendez le bruit ?
C'est qu'on entend le grésillement.
Ouais.
C'est incroyable. Et en fait, en face de votre maison, il y a un mur avec des barbelés au-dessus. Et il y a tout le poste avec les pylônes derrière. Vous vous appelez comment ?
Maï et Céline. J'ai 26 ans. Moi, j'ai vécu 26 ans ici et il y a 2 mois, j'ai déménagé.
Vous êtes où maintenant ?
Maintenant, je suis dans Carcassonne. Ça faisait un petit moment que je voulais partir. J'ai été opérée d'un cancer déjà.
Vous avez eu un cancer ?
Cancer de la thyroïde. J'avais 21 ans. Après, voilà, quand on grandit ici, on ne se rend pas compte. C'est après. Parce que les âgés, eux, ils ne connaissaient rien. Nous, on est plus jeunes, on est allés à l'école, on a étudié quand même. Et quand on dit qu'un téléphone portable ou un ordinateur, ça envoie des ondes, imaginez-vous une centrale électrique. Et quand la RTE ou EDF, ils nous disent que ça n'a rien à voir avec ce qu'on a, je suis désolée, mais à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Ça fait réfléchir tout ça. Alors un téléphone, il y a des ondes, mais une centrale électrique, non. Maintenant, voilà, j'ai des problèmes avec mon fils, on ne sait pas trop ce qu'il a. Alors vu qu'il a été exposé aussi ici, il y a des questions qu'on se pose.
Le petit garçon, là, qui est dans vos bras ?
Oui.
Qu'est-ce qu'il a ?
Ben, il a les plaquettes qui sont basses, les globules blanches aussi. Il montre des signes d'infection à répétition malgré les antibiotiques. Et je dois aller le faire suivre sur Toulouse un infectiologue. Parce qu'il a une boule qui grossit. C'est un glandillon. Alors un glandillon, ça grossit que s'il y a une infection. Et moi, ce que j'ai peur, c'est que ce soit un cancer ou une leucémie. Et c'est ce qu'on va lui faire, une biopsie. Il n'a pas 2 ans.
C'est toujours un sujet sensible qui suscite l'inquiétude des riverains. Quel est l'impact d'une ligne à très haute tension lorsqu'elle est construite à proximité d'une habitation ? En France, 375 000 personnes vivent actuellement sous des pylônes électriques.
L'impact de ces lignes sur la santé des animaux ou des humains, aujourd'hui, aucune étude biologique n'a pu l'évaluer. L'agence sanitaire recommande de ne pas installer ou aménager des établissements accueillant des enfants à proximité de ces lignes. Pour RTE, la filiale d'EDF qui transporte l'électricité, il n'y a donc aucun problème sanitaire.
Depuis que j'ai déménagé, je me sens mieux, je vis mieux. C'est comme un rêve qui s'est réalisé pour moi. Il y en a qui rêvent de château, de...
Non, non, pas de château.
Moi, je... pour elle, c'est un HLM, et bien, je revis. Et je remercie Dieu tous les jours que j'ai déménagé, que je suis bien. Ici, on est constamment sur le stress. Parce qu'on a la peur qu'il y ait un générateur qui pète, comme la dernière fois, c'est arrivé.
Il y a un générateur qui a cassé ?
Oui, il y a un générateur qui a cassé. Il y a eu du CO2. Et heureusement que M. Soulès est venu nous chercher, qui nous a ouvert la salle. Parce qu'il n'y a personne qui est venu ni nous évacuer, ni rien. Ça a été le maire qui est venu nous chercher. Et le lendemain, moi-même, j'ai appelé les pompiers, qu'il y avait des gens qui se sentaient mal. Alors, ils sont venus à la salle et ils ont fait des examens pour le test de monoxyde de carbone.
Alors, c'était du pyralène. Respirer le pyralène, il n'y a rien de plus dangereux.
Pas longtemps avant que je déménage. Vous voyez le pylône électrique, là ?
Oui, le premier, là.
Le machin noir. Ça a pris feu. J'étais là. C'était le matin. J'ai entendu boum. On a vu qu'il y avait ça en feu. Du jour au lendemain, ça peut péter tout, quoi. Et là, si ça pète, on n'a aucun moyen de s'en sortir ici. Par où on va sortir? On dirait le Alcatraz.
La prison.
Oui.
Berriac, cité de l'Espérance. Depuis 1968, 22 familles vivent ici, aux abords immédiats de la centrale électrique de Moreau.
Cité de l'Espérance, c'est le nom séduisant donné à l'un des quartiers du village de Berriac, aux portes de Carcassonne.
160 personnes qui pensaient avoir trouvé un coin de paradis.
Mais la réalité, elle, est moins rose.
C'était sans compter sur les lignes à haute tension. Peu à peu, les habitants commencent à développer un certain nombre de maladies. Tous en sont sûrs, c'est la proximité de la centrale électrique qui serait à l'origine de leurs symptômes.
On n'entend que ça ici. Celui-là, le cancer. Celui-là, le
pourtant,
cancer.
Une étude épidémiologique réalisée entre 1993 et 2008 n'avait pas permis d'établir un lien entre ces pathologies et les lignes haute tension. Le gestionnaire du transformateur, l'entreprise publique Réseau de Transport Électrique, n'a aucun doute sur le caractère inoffensif de ses installations.
Une maison, ça fait 4 cancers. Ça fait un peu beaucoup, non ?
Comme un bruit qui coule !
Mais comment ça se fait qu'au départ, en 69, on ait installé des gens ici, non, mais... sous les énormes pylônes EDF.
Vous savez, en 68, comme je vous disais, on vivait dans une décharge publique. Et puis, il fallait avoir un terrain qui n'avait aucune valeur financière. Je crois concrètement, ça n'avait aucune valeur financière. Donc, en plus, le poste caché, les 23 logements HLM donc, qu'il y avait là-bas derrière, du coup, c'était l'endroit idéal. Ça cachait les gitans, et puis voilà quoi. Voilà pourquoi on nous a installés ici.
Et du coup, ils sont venus faire des mesures ici
Donc je suis venu à la première mesure, il s'est mis à l'embase du poste, au niveau des plaques. Et puis il me dit, mais écoutez, vous êtes 40 fois en dessous du seuil de la normale, donc franchement, vous n'avez aucun risque. Bon, quand il m'a dit ça, franchement, je suis parti choqué, parce que 40 fois, ça veut dire quoi? C'est le paradis, quoi. Ça veut dire que ces terrains, on peut les vendre une fortune, quoi. Et puis j'ai appris, quelques temps plus tard, qu'en fin de compte, c'était une société qui travaillait pour RTE. Et c'est là, avec un des habitants, que lui aussi, il avait des problèmes en santé, parce qu'il vit sous une ligne aussi. Il a décidé d'avoir un avocat. Il a réuni des familles qui ont des problèmes de santé. Et j'ai fait ce dépôt de plainte. Et lui, il a fait venir notre spécialiste. Et quand on voit son rapport, ça fait peur, quoi. Lui, sur son rapport, on est dans une zone invivable. Le problème, c'est qu'il n'avait pas les homologations. RTE a dit non, son rapport, il vaut rien. Donc, le juge a saisi une société indépendante avec les agréments qui, lui, a reçu toutes les personnes malades et a fait un relevé. Donc, ce rapport a été rendu au juge et aujourd'hui, on est en attente d'avoir le résultat. On a pu le reconnaître pour des vaches, mais on n'est pas capable de le reconnaître pour des êtres humains.
On a pu reconnaître que des vaches étaient malades à cause des lignes électriques.
Oui.
C'est blessant et décevant.
Entendre qu'on reconnaît les maladies des vaches et pas les vôtres.
Oui, pas des humains. Parce que c'est qu'on ne nous traite pas comme des humains, on nous traite moins que des animaux. Alors. Ça fait mal d'entendre ça.
Je trouve ça dégradant, quoi. Aujourd'hui, c'est quoi l'enjeu, c'est quoi? L'enjeu, c'est que RTE et l'État, si jamais c'est reconnu, là, ils vont en avoir 52 millions de procès. Hein. Parce qu'en France, on n'est pas les seuls à vivre à côté des centrales et tout ça. Moi, je ne demande pas d'argent. Tout simplement, c'est qu'on reloge les gens. On veut les mêmes droits et devoirs que les autres. Voilà, tout simplement.
Ministère des Affaires Sociales et de la Santé, bonjour. Un opérateur va prendre votre appel. Service de presse, bonjour.
Oui, bonjour madame. Je vous appelais parce que je prépare un reportage sur la Cité de l'Espérance à Berriac.
Sur la Cité de l'Espérance, c'est ça ?
Ouais, c'est 350 personnes qui vivent à proximité immédiate d'un poste EDF avec des lignes très haute tension, 2 × 225 000 volts.
D'accord.
Et toutes les familles sont touchées par des cancers, des leucémies, des dérèglements thyroïdiens.
Oui, oui.
Donc ils ont entamé un procès, mais ils aimeraient bien avoir des réponses.
D'accord.
Et du coup, moi, je cherchais à joindre le cabinet de la ministre, savoir si c'était normal de laisser vivre des gens dans des conditions pareilles. Et puis, les impacts sur la santé de ces lignes à très haute tension.
D'accord. Demande d'interview, d'accord. Écoutez, je vais faire part de votre demande et quelqu'un vous contactera à ce sujet.
Merci.
Je vous remercie. Au revoir.
Bonjour, vous êtes en relation avec l'équipe communication de l'Agence régionale de santé Occitanie. Nous ne sommes pas disponibles pour le moment, mais n'hésitez pas à nous laisser votre message. Nous vous recontactons dès que possible. Merci.
Qui dit étude dit travail, qui dit taf, qui dit l'étude, qui dit argent dit dépense, qui dit crédit dit créance, qui dit dette dit huissier, oui dit assez dans le nerf, dit amour, dit des gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche, te dit deuil, car des problèmes viennent pas seuls, qui dit crise, te dit monde, dit famine, dit tourment, qui dit fatigue, dit réveil, encore sourd de la mer, alors en son pour oublier tous les problèmes, alors on danse.
Alors, de l'environnement, bonjour.
Oui, bonjour madame. Pourrais-je avoir le service de presse du cabinet de la ministre, s'il vous plaît?
Quel ministre, madame?
Madame Royal.
Je vous mets en relation. Hein.
Merci.
Alors, bonjour.
Oui, bonjour. Je cherchais à joindre donc le service de presse.
Le secrétariat presse de madame Royal ne décroche pas. Hein.
Donc, faut que je réessaye plus tard, c'est ça?
Oui.
Ok. Alors,
voilà le Royal, pas de nouvelles. Nouvelles. Mais...
Le ministre de la Santé, donc.
Oui, le ministre de la Santé, pour moi, pas de nouvelles.
Cité de l'Espérance, c'est des petites maisons avec des grandes baies vitrées, des petits porches devant. Et c'est en plein milieu d'une centrale électrique. Et constamment, on entend des grésillements.
C'est incroyable de voir tout ça.
C'est incroyable.
Quand on n'est pas d'ici, qu'on n'a pas l'habitude, c'est incroyable de voir tout ça. C'est presque inhumain de laisser vivre des gens ici. Encore, les gens demanderaient de l'argent, que DF ne veuille pas. Je comprends. Mais là, ils ne demandent pas de l'argent, ils demandent d'être relogés. C'est tout. Ils ne demandent que ça. Ils pensent à leur santé.
Bonjour.
Bienvenue à l'Agence régionale de santé Occitanie.
Amandine Godot, bonjour.
Oui, bonjour madame.
Je suis avec le docteur Jean-Jacques Morfois, qui est le directeur général adjoint de l'Agence régionale de santé Occitanie. Je vais vous le passer.
Allô ?
Oui, bonjour monsieur.
Oui, bonjour madame. Alors d'une manière générale sur ces champs électromagnétiques, puisque c'est ça la question, c'est un sujet, vous le savez, qui n'est pas nouveau, qui a été depuis plusieurs années l'objet d'investigations de l'État au sens large, hein, qui effectivement n'a pas tiré de conclusion de lien de cause à effet. Ce qu'on sait sur le plan scientifique et bibliographique, c'est qu'il n'y a pas d'études qui montrent de manière probante ce lien, ou en tous les cas certaines études sont contestées. Donc à ce stade, je n'irai pas plus loin.
Alors du coup, selon vous, quelle serait la cause de ces nombreuses maladies qu'il développe?
Alors, comme vous le savez aussi, les facteurs de risque s'agissant des pathologies cancéreuses sont nombreux. Il y a les facteurs environnementaux, mais il y a aussi les facteurs génétiques, des facteurs de risque liés aux habitudes de vie, aux habitudes nutritionnelles, au tabagisme, à l'alcool. Hein, ce sont des facteurs de risque.
Pour les leucémies infantiles, l'alcool et le tabagisme aussi?
Non, mais sur les pathologies de l'enfant, il y a des facteurs génétiques bien connus. Mais en tous les cas, nous, il ne nous est pas permis de faire un lien de cause à effet.
Donc pour l'ARS, il n'y a pas de risque à laisser vivre les gens à la Cité d'Espérance à proximité d'un poste EDF et des lignes à haute tension. Sur le point de vue sanitaire, ça ne présente pas de risque majeur.
Je ne peux pas vous laisser dire ce que je n'ai pas dit. Je dis simplement qu'à date, il n'y a pas de lien scientifique de cause à effet entre le fait d'habiter à proximité d'une source d'un champ électromagnétique avec les pathologies observées dans cette population. Oui, ça, c'est effectivement les conclusions que l'on peut tirer à date. À ce jour, le lien n'est pas prouvé scientifiquement.
A priori, le poste va s'agrandir aussi. Les maladies risquent de se développer encore plus aussi. Non.
Oui, ça, c'est votre point de vue, oui. Au revoir, madame.
Au revoir, monsieur.
Tous les soirs, t'as crié. Ça faisait peur.
Vas-y, viens, tu
as chez le moiteur. Mais elle, c'est la tante aussi, mais elle habite là aussi.
Bonjour. C'est dingue ce grésillement là qu'on entend aussi.
Ah, c'est pas des grillons.
Bonjour.
Hein. C'est pas des grillons, hein. Ouais. C'est vraiment.
C'est impressionnant. Hein. Mais eux, ils veulent nous laisser encore là. Ils ont enlevé les vaches, ils peuvent nous enlever à nous, non, quand même. On est des êtres humains, nous. Ils nous laissent pourrir là.
Vous appelez comment ?
Moi, Josia. Je suis venue ici, je dois avoir un an, même pas, je ne les avais pas.
C'est vos parents qui ont acheté ?
Oui, c'est mon père qui l'a acheté tout ça, là.
Tout le terrain, là où il y avait toutes les maisons ?
Oui.
Et là, donc, c'est toute votre famille qui habite ces maisons-là ?
Oui, toute ma famille, là, oui. On est arrivé ici, et voilà, on a grandi là-dedans, et nous, bon, on était sauvages. C'est à l'époque, on ne comprenait rien. C'est vrai, il faut dire ce qui est. C'est-à-dire qu'ils nous ont enlevés de là-bas pour nous mettre ici, de dire, c'est des gitans, allez, hop, on va les foutre là-bas, on sera tranquille. Ils n'ont rien à foutre de nous. On est jetés comme des pires que des chiens. Ils s'en foutent. Hein. Eux, ils sont bien, ils ont leur maison propre, ils ont leur devant de porte tout propre. Hein. Ils sont bien et nous, on vit dans la merde. Hein. Et avec la merde en plus, avec les maladies et tout. Non, il faut arrêter maintenant. Il faut qu'ils se bougent là.
Et malgré que ça ait pété plusieurs fois, malgré toutes les maladies, personne s'est dit on va peut-être les mettre ailleurs quand même, ces gens.
Vous savez, excusez-moi, mais du moment que vous êtes hésitable pour vous reloger, accrochez-vous, hein, excusez-moi, ils n'en ont rien à foutre. Ils s'en foutent qu'on crève ou qu'on crève pas, ils n'en ont rien à foutre.
Vous appelez comment ?
Moi, Corinne.
Corinne.
C'est eux qui nous excluent. Je ne sais pas pourquoi on est des gitans, on est tous des malhonnêtes, hein. On est comme on nous appelle, des voleurs de poules. C'est fini ça, les voleurs de poules. On a tous une situation, tant bien que mal.
Vous dites quoi ?
Que j'aimais, je travaille dans la viticulture, hein, dans les vignes. Il y a 30 ans que je suis dans les vignes.
Il y a beaucoup de vignes dans le coin.
Ah oui, oui, oui. Oui. Mais bon, un logement, pour nous, il n'y en a pas. Les portes sont fermées, on va dire. On verra bien, on va se battre. Hein. Les services ne se bougent pas beaucoup. Hein. On est digital, on est sales et des voleurs de poules. Hein. C'est comme ça qu'on est appelé.
Là, c'est les maisons de qui ?
C'est toute la famille, là. Même le maire, c'est mon cousin. C'est la famille.
On a Carcassonne, juste derrière le palais de justice, et on se rend chez Maître Laretge, l'avocat des familles de la Cité de l'Espérance.
Bonjour.
Bonjour, suivez-moi.
Ouh là là.
Ouais, c'est horrible.
Il y a des dossiers.
On n'en finit pas.
Donc, Hichem Laretge, avocat à Carcassonne, au barreau de Carcassonne.
Et vous défendez donc 15 personnes de la Cité de l'Espérance contre EDF, c'est ça ?
Contre EDF, ERDF et RTE, effectivement, qui sont des filiales d'EDF.
Toute la difficulté de ce dossier, c'est de prouver le lien entre les maladies qu'ils développent et les lignes à haute tension, 2 × 225 000 volts, au milieu desquelles ils vivent.
Exactement. La difficulté de ce dossier, c'est effectivement de démontrer un lien de causalité. C'est le premier dossier et ça peut faire jurisprudence. Ce qui impliquerait effectivement en France la mise en cause officielle et une responsabilité directe et explicite d'EDF et d'RTE et de ERDF.
Un expert judiciaire qui a été mandaté par le tribunal de l'Institut de cancérologie de Montpellier. Que dit ce dernier expert ?
Pour certains dossiers, il a pu exclure le lien de causalité, mais pour d'autres, il émet un doute sérieux, notamment pour des personnes qui avaient des leucémies, des pathologies vraiment très très graves. Donc aujourd'hui, on peut enfin diligenter une procédure pour engager une responsabilité d'EDF et d'RTE et de RDF.
Donc c'est déjà un premier pas vers la reconnaissance.
C'est un énorme pas aujourd'hui qui est effectué. Ça a été très très long puisque RTE, EDF et RTF ont tellement de moyens et c'est tellement un gros lobby, effectivement, qu'on a eu à faire face à des appels ou des procédures extrêmement longues. Mais effectivement, là, aujourd'hui, c'est un grand pas pour une affaire qui est un véritable problème de santé publique. On est face à un crime, honnêtement, de laisser effectivement des personnes avec des enfants vivre dans ces conditions d'insalubrité, également de danger. Pourtant, le ministère de l'Environnement avait été alerté par le sujet. Également, l'Agence régionale de la santé a été alertée. Mais malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas de réponse de la part des pouvoirs publics qui n'aident pas au relogement. Tout le monde se moque d'eux. C'est une population qui n'intéresse pas. Pourtant, ils sont plus de 400 à vivre là-bas. Mais ça ne pose pas de problème pour les pouvoirs publics aujourd'hui.
C'est qu'on a sur la tête, là. C'est pas normal. Ils nous ont enterrés vivants.
a été réticulé.
Vous parlez en quelle langue ?
Catalan.
En catalan ? Vous en pensez quoi de l'histoire des maladies ? Est-ce que vous pensez que c'est lié à...
Ah oui, c'est sûr, garanti maintenant.
C'est sûr ?
Ah, sûr. C'est sûr.
Chez vous aussi, il y a des gens qui sont malades ?
Oui, beaucoup même, oui.
Des maux de tête ?
Maux de tête, décès de cancer.
Ouais. Non, non, non. Vous avez porté plainte, vous aussi ?
Non. Non.
Pourquoi ?
Bon, c'est trop... c'est compliqué.
Vous pensez que ça sert à rien ?
Oui, ça sert à rien. On ne gagnera pas de toute façon. Hein.
Vous voudriez partir d'ici ?
Bon, non.
Non.
Non. On est bien ici, vous.
Oui, ça vous aide bien. Il y a une belle vue, vous jouez à la pétanque, mais il y a toutes les maladies quand même.
Oui, ma boule.
C'est la vie,
allez.
Pardon. Ah, alors là, il va falloir jouer intelligemment.
Vous savez où vous êtes, là, madame ? Vous êtes sur la planète Mars. Ah ouais, c'est la planète Mars, ici. Tout le monde est malade, ici. Tout le monde prend le même traitement. RTE et EDF, je pense que c'est les coupables. Et je voudrais voir Marisol Touraine, la ministre de la Santé. Je voudrais bien qu'elle entende. Avec tout mon respect que je lui dois, je voudrais la voir. À Marisol Touraine.
Qu'elle vienne ici voir comment vous vivez.
Qu'elle vienne me voir à moi, Grégoire et Steven. Merci beaucoup pour l'interview. Et bonne année.
Bonne santé.
La santé, vous le voyez bien. Hein.
Voilà le maire. Hein.
Ah, mais je passais 2 heures avec elle, donc c'est vrai que bon, par un peu, vous vous rangez un peu comme ça.
Ça sert à rien, tout ça. Quoi ? On ne gagnera pas. Hein.
Tu penses ?
Ouais. Non, la Suisse, on ne gagnera jamais. Hein.
Pourquoi tu dis ça ?
C'est comme, toujours, ça fait 50 ans qu'ils disent ça. 50 ans, ça sert à rien.
C'est-à-dire que c'est toujours pareil. Hein. Eux, ils ont l'argent et nous, on n'a rien. Alors, ils auront toujours raison. Mais cette fois, j'espère que non. Parce que je crois que le combat vaut le coup.
De toute façon, comme j'ai dit, on sera gagnant, forcément. Il faut qu'il y ait une reconnaissance, même si ce n'est pas prouvé. Je ne pense pas qu'il y ait un juge qui dira non, il n'y a aucun danger. Donc, principe de précaution. Et au moins, le problème sera réglé.
Merci, monsieur le maire. Merci. Pour une fois qu'il y a quelqu'un qui nous soutient.
Et voilà. Le maire, c'est le seul maire gitan de France.
C'est le seul maire gitan de France. Oui, mais pour... voilà, c'est toujours... on revient toujours pareil. On revient toujours à la même chose. Pourquoi ? Parce qu'ils nous mettent là, ils nous parquent là, et voilà, c'est tout. On ne nous ouvre pas les portes pour aller plus loin. On nous dit, ouais, vous faites la ferraille, et voilà, vous embêtez personne.
Moi, je voudrais rester là.
Pourquoi tu veux rester ici ?
Pourquoi c'est comme notre maison, là. C'est notre terrain de gitan. Voilà.
Et tu fais quoi ? Tu vas à l'école, là, encore ?
Ah oui, j'y vais encore.
À quel âge ?
15 ans.
Tu vas à Carcassonne ?
Oui, au collège.
Toi, tu penses que c'est lié, les maladies, ou pas ?
Ah oui, c'est lié. Oui. On a 10 mètres de nos centrales qui fait je sais pas combien de courant. Quand on entend le courant, ça fait ça fait mal à la tête. Hein. Quand je sors de là, j'ai plus mal à la tête.
Pourtant, tu veux pas partir.
Ah non. Vous voulez qu'on aille ? À l'SPA ?
C'est à côté. Quand on sait que ça fait 10 ans, d'après le maire, qui recherche des appartements ou des pavillons et que toutes les mairies nous refusent, franchement, ça fait 10 ans déjà. Je vais vous dire une chose, on est montré du doigt, nous. Le monde entier nous montre du doigt. Le monde entier ne nous veut pas. Mais on ne demande pas grand-chose. Nous, on demande que justice soit faite. Moi, je veux savoir s'il y a danger, s'il y a maladie, et il y a maladie. Attendez, c'est pas normal qu'un mec de 20 ans ait le semi ou qui fait des dépressions. C'est pas normal. On a autre chose à faire à 20 ans.
Et les jeunes qui sont installés avec le quad qui fait beaucoup de bruit. La radio.
Je veux dire un mot. La cité de l'espérance, c'est le meilleur.
Allez ! 22 familles sont tous touchées.
Il y a 22 familles qui vivent à la Cité de l'Espérance.
22 familles qui vivent à la Cité de l'Espérance.
et 22 familles qui ont eu des décès prématurés, des jeunes à 18 ans, 17 ans.
Il y a des gens de 17-18 ans qui sont morts?
Oui, de leucémie. 425, arrivem a Perpinyà, en carros i cavalls, a Catalunya ens varen quedar. Des d'aquell moment, i sense fer mal a ningú. Diferents cultures, el civisme han convingut. Soc gitano català i tinc una cultura universal també. Diccionari i bandera, quatre barres per senyera i una rumba per enamorar.
Après les vaches qui ont obtenu gain de cause, si j'ai bien compris, les jutants survoltés de Berriac se battent, eux, pour retrouver un autre logement, mais ils se battent pas que pour eux, parce que si j'ai bien compris, leur cas pourrait faire jurisprudence.
Et oui, s'il était avéré, mais le combat judiciaire va être long, très long, face à un lobby comme EDF qui pèse 75 milliards d'euros. Car les enjeux sont énormes. En France, 375 000 personnes vivent sous les quelques 100 000 km de lignes à très haute tension qui quadrillent le territoire.
Alors Charlotte Perry reviendra la semaine prochaine du côté de Carcassonne, mais maintenant c'est la suite des portraits de quartier d'Antoine Chao. Cette fois-ci à Argenteuil, imaginez Astérix en femme immigrée.
Oui, on va rencontrer Fouzia Amami, qui est directrice de l'antenne locale de l'ATMF, l'antenne locale donc d'Argenteuil. L'ATMF, l'Association des travailleurs maghrébins de France, qui en est aussi la référente du réseau Femmes, qui organise ces jours-ci une caravane qui s'est arrêtée mercredi dernier, le 8 mars, donc journée internationale des luttes pour le droit des femmes à Argenteuil. Pour une rencontre, une projection du documentaire Nos mères, nos daronnes et un bon goûter, avec la participation de Camilia Absi, avocate du droit de la famille, pour évoquer le statut des femmes maghrébines en France, et de Fatima Wassak, politologue, venue pour évoquer la question des discriminations multifactorielles et la notion d'intersectionnalité.
Est-ce que vous avez des questions? C'est vrai que je suis passée à la synthèse, mais oui, une intervention.
Comment faire valoir le droit? Je voudrais savoir comment.
Et voilà l'espace Mandela.
Allez-y, je vous en prie.
Alors Fouzia Amami, c'est vous qui organisez cette caravane et plus largement, c'est vous qui vous occupez de l'ATMF ici à Argenteuil.
Alors, l'ATMF est une des plus anciennes associations issues de l'immigration. Donc, un réseau d'associations composé de 18 associations membres partout en France. Donc, ça va du nord au sud, à Aix-en-Provence, à Nancy, au Nord-Pas-de-Calais, en Bretagne, etc. Un peu partout en France. Le siège est à Paris. Sinon, toutes les autres associations membres localement sont très impliquées auprès des habitants. On a su tisser des liens de confiance avec les habitants à Argenteuil comme ailleurs.
Alors, c'est quoi cette journée aujourd'hui, cette caravane qui va sillonner la France?
Alors, ça a commencé le 4 mars à Aix-en-Provence, où on était une bonne délégation de femmes et d'hommes aussi, puisque la question des femmes à la TMF est aussi portée par les hommes qui nous soutiennent et qui sont là avec nous pour défendre les causes qui nous touchent de près, puisque nous sommes féministes. En tout cas, on se considère féministe, mais avec cette particularité liée à nos origines, donc d'origines diverses, hein, maghrébines, étrangères, etc.
Ça va?
Ça arrive.
Ça va?
Ça va commencer, Fouzia, je crois. Hein.
Alors, voilà, donc aujourd'hui, on fête les luttes portées par les femmes. Les femmes comme vous, comme moi, etc., dans nos quartiers populaires. C'est très important d'être consciente du chemin qui nous reste à parcourir pour qu'on puisse acquérir, en tout cas nous, femmes étrangères, maghrébines, de tout horizon, n'est-ce pas, habits, etc., donc de tout horizon, je dis bien, et l'ATMF est heureuse aujourd'hui de vous accueillir pour fêter ensemble les luttes que nous menons, pour qu'enfin on puisse trouver notre place en France, dans nos quartiers, dans notre pays. Donc aujourd'hui, c'est la caravane pour les droits des femmes comme vous, comme moi, qui luttons au quotidien dans nos quartiers. Les luttes sont diverses pour arrondir les fins de mois. Les luttes que nous menons quand on est femme seule, abandonnée avec des enfants. Les luttes que nous menons tous les jours au quotidien pour assurer le confort à nos enfants, etc. Étant donné que la crise est passée par là. Et je ne veux pas entendre dire la journée de la femme. Ce n'est pas la journée de la femme, c'est la journée de lutte pour les droits des femmes, journée internationale. Alors, on attend l'intervenante, donc Fatima Wassak, qui va arriver. Elle est un peu en retard, elle s'excuse.
Alors, il y a un point commun aux femmes qu'on appelle non-blanches ou femmes racisées, parce qu'effectivement, même si ça concerne toutes les immigrations, les migrations, il y a quand même une immigration qui est particulière, qui est spécifique, qui est l'immigration qu'on appelle post-coloniale, c'est-à-dire l'immigration africaine, l'immigration maghrébine, subsaharienne, etc. Donc migration de pays qui ont été anciennement colonisés. Il y a quelque chose de spécifique dans cette immigration-là et dans la manière dont la société française traite, gère cette immigration. Et donc les femmes qui sont issues de ces immigrations-là subissent quelque chose qui leur est spécifique, qui sont les discriminations donc qu'on appelle multifactorielles. Parce qu'on a tendance, quand on parle des discriminations que subissent les femmes, pour le dire vite, noires, arabes, musulmanes, habitant les quartiers populaires, etc., à noyer cette question-là dans la question soit de l'intégration, soit des violences intrafamiliales, ce qui ne permet pas de rendre lisible l'ampleur et la violence de ces discriminations.
Donc, on va donner la parole à Camilia Apsi, qui est avocate, qui nous aide beaucoup au sein de l'ATMF à débloquer des situations très, très complexes, notamment quand il s'agit de divorce, etc. Si quelqu'un peut faire fonctionner le micro, c'est très bien.
Camilia, si tu veux bien.
Je vais survoler deux thèmes. Deux thèmes que je survole souvent à la TMF. Tout d'abord, le thème du divorce. Et puis, le deuxième thème, ça va être la régularisation. Et ben, la femme marocaine, elle va pouvoir demander son SEDAR, donc la dot. Elle va pouvoir demander l'IDA, donc la pension de viduité. Elle va pouvoir demander une sorte de prestation compensatoire, d'accord, un lot de consolation, c'est comme ça qu'on appelle, par exemple des frais de logement, des frais de transport, etc., tout ce qui n'existe pas dans la législation française. Donc ça, c'est particulier à la femme marocaine.
Oui, alors Camille Apsi, vous interveniez sur cet après-midi avec la TMF. Alors il y a vraiment une question particulière que vous avez évoquée, c'est donc le droit des femmes maghrébines et notamment un droit qui s'applique pour les femmes marocaines.
Alors en fait, en matière de droit de la famille, c'est la convention franco-marocaine de 1981 qui s'applique. Et donc dès lors qu'il y a un des deux conjoints qui est marocain, on applique la Moudawana, donc le code de la famille marocain. Et donc c'est très difficile de faire comprendre ça aux femmes parce qu'elles pensent que le fait qu'elles habitent en France fait que automatiquement ce sera la loi française qui sera appliquée. Et quand on leur explique que ce n'est pas le cas, y a des incompréhensions. Ils ne comprennent pas en fait les tenants et les aboutissants de cette convention. Et on n'est pas revenu dessus. C'est un peu comme les accords d'Évian de 1962 avec l'Algérie. En fait, c'est des anciens accords qui sont toujours d'actualité et les gens ne comprennent pas forcément en fait. Parce qu'on n'a pas l'impression qu'ils se soient adaptés à l'évolution de nos sociétés. Quasiment 90% des gens ne connaissent pas leurs droits, ne savent pas quelle législation doit s'appliquer. Et on nous dit que nul n'est censé ignorer la loi, mais dans les faits, 90% des gens ne savent pas quelle loi est applicable à leur situation. Et surtout les personnes qui viennent de l'étranger.
Et là, du coup, beaucoup de femmes sont venues vous voir à la fin pour vous demander des conseils.
Voilà. Par rapport à leur séparation, par rapport au fait qu'elles sont sans titre de séjour, par rapport au fait qu'elles soient victimes de violences. Moi, elles n'avaient pas envie d'en parler devant tout le monde. Donc, c'est vrai que là, c'est un peu la queue pour venir me demander des conseils.
Ouais. Ah, bon.
والعجل ما قضى صوالح والعجل ما قضى صوالح ميزان خفيف مرتب جاني مار بركاني وجاني مار بركاني جاني مار موت نقريش كل يوم جاني مار جاني مار جاني مار شي فيني وحشقني وحشقتو واللي شفتو يفكرو جاني مار بركاني جاني مار شي فيني يا لا 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 وليدات مونبيلي الويز مباكا وجاني مار جاني مار جاني مار جاني مار
alors donc les enfants eux aussi donc dans le cadre de cette journée vous ont préparé des petites surprises
et on fait un hommage aux mères courage
bravo. Bravo, savez-vous, hommage à nos mères courage. Et bien sûr, sans oublier toutes les personnes qui ont œuvré pour la réussite de cette journée. Donc, à leur tête, donc, je nomme Souad, Karima, Fatima, Camila, Hayat au fond avec les enfants, Aliat, Brahim qui nous a préparé le thé. Un bon thé à la menthe. Bien sûr, Zabibou qui se cache derrière moi. Lucille. Et bien sûr, Ouda avec ses jolies peintures. Et surtout, surtout, le bon buffet concocté, bien sûr, par les femmes de l'espace femme. Bernard, le pilier de la permanence sociale et juridique.
Alors, Fatima Ouassak, vous venez d'intervenir ici pour cette journée organisée par la TMF. C'est important de venir ici pour sensibiliser les femmes aux questions de discrimination. Là, on est quand même au cœur d'un quartier populaire.
Oui, clairement. C'est important de parler des discriminations, notamment multifactorielles, intersectionnelles, etc., aux premières concernées, en l'occurrence les femmes voilà, issues d'immigration postcoloniale qui habitent les quartiers populaires. Donc effectivement, c'était très important de venir aujourd'hui pour moi à la TMF, qui est une association historique qui s'occupe depuis des années et des années de traiter ces questions de discrimination que subissent les femmes qui habitent les quartiers populaires. Alors c'est un concept, c'est aussi un outil méthodologique. Et cet outil méthodologique, c'est par exemple de dire tout simplement celles qui sont les plus légitimes pour parler les discriminations qu'elles subissent, ce sont les personnes qui sont directement concernées par la discrimination. Voilà. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de très théorique qui a été importé en France par des universitaires, pour dire les choses blancs, qui ont encore ajouté encore à la complexité du terme. Et quand vous prenez ce terme intersectionnalité et que vous tentez de l'expliquer aux personnes qui sont censées être concernées par ce terme, bon, là, vous heurtez au fait qu'effectivement, le terme ne vient pas de ces personnes. Donc, c'est pas opérant, comme on dit. Et voilà, c'est pas... Donc, c'est un terme qui marche bien dans certains milieux académiques, institutionnels, universitaires, militants, radicaux. Par contre, voilà, quand on vient argenter dans un quartier populaire, intersectionnalité, mais en réalité, même antiracisme, même le terme blanc, même le terme colonial, etc., ce sont pas des termes qui sont opérants. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment partir de notre base, quoi, de nos problèmes concrets, et puis voilà, et puis considérer que les mots, ils sont, faut pas les sacraliser. C'est pas grave si on dit pas intersectionnalité, c'est pas grave si on dit pas racisme, c'est pas grave si on dit pas blanc. Voilà, ce qui compte, c'est de pouvoir mettre des mots sur des problèmes
et sur des réalités, quoi. C'est ça, qui sont vécues au jour le jour,
avec les mots des personnes qui les vivent. Voilà. Et en fait, on se rend compte finalement que le débat, il a vraiment lieu quand ça s'arrête et que les gens viennent avec leurs problèmes, quoi.
Alors, comment vous avez trouvé cet après-midi, ce débat?
Le débat, il est très, très génial parce qu'il parle de la discrimination de la femme. En fait, nous, les femmes voilées, on est mal vues partout. On est mal vues dans les transports, on est mal vues dans les administrations. On nous regarde mal parce qu'on porte le voile qu'on est des criminels, quoi. Et c'est ça qui me fait mal, pour même pour moi et pour toutes les femmes voilées de la France. On est français. C'est vrai qu'on est français, mais on ne le reconnaît pas comme je suis française. On te reconnaît que toi, tu es Ben Laden. On te voit comme Ben Laden.
Bon, Foussia, ah, on va laisser passer le chariot, là. Il faut ranger maintenant, hein, la salle.
Il ouais. Y a plus du reste à faire.
Oh, bah non.
C'est bien, merci.
C'était une belle rencontre, hein, quand même. Hein.
Oui, l'idée, c'est d'amener les femmes qui ne fréquentent pas les lieux, des lieux comme ça, de réflexion, etc., de prendre de la hauteur et de venir écouter des débats comme ça de qualité, d'essayer de comprendre, parce que après le débat, bon, certains n'ont pas eu le courage de prendre le micro et d'en débattre, mais après, lors du buffet, ben, plusieurs femmes sont venues me voir pour me dire oui, moi je m'y retrouve, oui, et d'autres pas, voilà, d'autres parce que voilà, parce qu'on est entre nous et que on ressent pas si fort que ça les discriminations. Par contre, quand on a des enfants qui sont diplômés, eux, et qui n'accèdent pas facilement à l'emploi, là oui, là on ressent vraiment les discriminations. Et c'est vrai, quand on ne s'appelle pas Jean-Paul, quand on ne s'appelle pas Jean-Pierre, et qu'on s'appelle Mohamed, eh ben oui, là réellement, il y a des discriminations liées justement à l'emploi. Nos jeunes n'arrivent pas à décrocher des emplois, ou très rarement. Ou sinon, alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nos jeunes désertent la France. Ils partent. Ils partent en Angleterre, ils partent en Europe, mais ils ne restent pas en France parce qu'ils n'arrivent pas à accéder à l'emploi, malgré les diplômes.
Bon, il reste du chemin à faire alors.
Ah oui, il reste du chemin à faire, oui, oui, oui.
Et la caravane continue.
La caravane continue et il reste du chemin à parcourir concernant les discriminations liées au genre. Quand on est maghrébine, qu'on subit les doubles, voire triples discriminations dans sa propre communauté d'abord, ensuite dans l'espace public. Donc c'est des discriminations réelles qu'on vit au jour le jour et voilà, et donc on se bat contre ça et on va de l'avant.
Je vais vous demander de vous décaler un petit peu.
Ah, voilà. C'est l'homme qui passe le balai. Bravo, hein.
C'est l'égalité. En fait, il faut qu'on partage les tâches. Donc, c'est ça le principe.
En fait, c'est la version.
Et l'esprit même de la Journée internationale des droits de la femme, c'est égalité homme-femme.
Bien sûr.
Donc, voilà. On applique ça à la TMF. Tout le monde participe.
Mais la main à la patte.
Voilà.
Hommes et femmes, voilà. Donc, on se serre les coudes et c'est pour voilà, pour défendre nos droits et pour acquérir d'autres droits, parce que comme je disais tout à l'heure, dans notre propre communauté on se bat et dans l'espace public on se bat encore. Voilà.
Une longue bataille.
Toujours au turban du soir au matin, moi j'en ai marre. Dois toujours manger de la vache enragée, moi j'en ai marre. Se dire que ma peine, je la traîne fourbu, jusqu'à ce que je crève sans rêve, sans but. N'avoir pour toilette que celle que l'on jette, moi j'en ai marre. N'avoir pour croque-nos que ceux qui prennent de l'eau, moi j'en ai marre. Si c'est ça la vie, eh bien je vous le déclare. Sans cette socialo, c'est pas rigolo, et moi j'en ai marre.
Les prochaines étapes de la caravane, Nancy le 16 mars, Saint-Avaux le 17, Gennevilliers le 18 et Sens le 25. Et bien évidemment, la TMF sera de la marche pour la justice et la dignité le 19 mars à Paris. C'était Comme un bruit qui court. Après les infos, prenez les routes de la musique avec André Manoukian. Et nous, on se retrouve samedi prochain à 16h.